Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h, vous êtes sur Radio Lodev, c'est l'émission de radio de l'association Pays-Arbres, du bruit dans les feuilles. Eh bien ce soir, c'est une émission un peu particulière, car toute l'équipe m'a absolument abandonné, et me voilà donc tout seul dans le studio. Mais pas d'inquiétude, j'ai des petits jokers. Et puis je vais m'entraîner à faire moi-même ma propre cloche. Alors ça c'est un peu le côté technique de l'émission du jour. Voilà, bienvenue à vous, installez-vous. On va encore une fois parler de nos amis à feuilles pendant quelques temps. Voilà, installez-vous confortablement. On va passer ce petit moment ensemble. Et pour commencer tout de suite, je m'entraîne. Pour la petite chronique avec laquelle je vous accueille habituellement, il s'agit de l'arbre du mois. Pour ce mois de mai, j'ai voulu vous parler du grenadier. Alors je crois pas que j'ai encore fait de chronique sur lui. Le grenadier, c'est un arbre assez discret finalement, tant qu'il n'est pas parti à la floraison. Il fait des toutes petites feuilles, là il est un peu épineux. Mais j'insiste parce que c'est un peu un fruitier qu'on a tendance à oublié quand on installe son petit verger familial, alors que c'est un arbre qui vient très bien en Méditerranée, hein, c'est son bassin d'origine, et on peut très facilement cultiver la grenade chez soi, et c'est un arbre qui offre plein de plaisir. Le premier étant sa magnifique floraison qui a inspiré tant de poètes, c'est des fleurs rouges écarlates. Il y a d'ailleurs certains grenadiers qu'on appelle grenadiers à fleurs qui ne sont cultivés que pour la beauté de ses fleurs. Néanmoins, ça serait un peu dommage de cultiver des grenadiers à fleurs. Enfin, à mon avis, moi qui suis très porté sur le fruit, je trouve que la floraison des grenadiers à fruits est tout aussi exceptionnelle. Et puis ben, derrière, vous avez quand même des magnifiques grenades. La grenade, c'est un fruit qui fait rêver. Alors juste un mot quand même sur sa culture. Il a deux particularités, le grenadier. Alors, d'une part, c'est un arbre qui se bouture et qui se marcotte assez facilement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire usage de cette reproduction végétative assez simple, qui consiste à prendre une petite baguette de l'arbre à l'automne ou au printemps, de la mettre dans un mélange de terreau et de sable et d'attendre tranquillement que le génie du végétal crée des nouvelles racines sur cette petite branche. Voilà, donc vous n'êtes pas, en fait, cherchais à vous dire, c'est que vous n'êtes pas du tout obligé de passer par la greffe pour reproduire le grenadier. Et puis il y a des variétés extraordinaires qui ont été sélectionnées pour leurs fruits, pour leurs jus, qui sont très sucrés et qui vont vous donner beaucoup plus de plaisir que des variétés dites sauvages, hein, qui vont être souvent plus acides et plus amères. Donc il faut vraiment essayer d'aller chercher ça sur des vieux grenadiers. Ici, on a une variété assez locale qu'on appelle Provence de manière un peu globale, qui est un grenadier qui était très adapté à la région. Mais on va pouvoir aussi assez facilement cultiver des variétés espagnoles. Je pense à Mollardier-Elche. Voilà. Et puis il y a aussi toute une les Américains. Enfin, il y a des variétés américaines de grenades qui sont assez exceptionnelles aussi. Donc voilà, on a beaucoup de choix dans la grenade. On a un spécialiste local, hein, la star de la grenade ici sur le bassin lodévois. Il habite Saint-Privat, je le salue s'il nous écoute, Raphaël Colici. Il a un magnifique conservatoire avec énormément de grenadiers et il a fait beaucoup pendant ces dernières années pour valoriser la culture de la grenade, parce qu'il trouve que c'est une culture qui est tout à fait adaptée au pays et où on a vraiment une valeur ajoutée qui est intéressante. Le jus de grenade, ça se développe beaucoup, le marché du jus de grenade, et donc là il y a vraiment un créneau d'arboriculture qui est peut-être intéressant. En tout cas, Raphaël a fait beaucoup dans ce sens, et puis ben son conservatoire là-haut sur les hauteurs de Saint-Privat rassemble énormément de variétés de grenadiers. Donc si tout ça vous intéresse, je vous invite aussi à prendre contact avec Raphaël Colici et son jardin des Escoubilles, où vous pourrez découvrir la culture du grenadier in situ. Pour continuer quand même sur ce fruit, bien sûr, on en a fait la grenadine. La grenadine, à la base, était faite avec du jus de grenade. J'ai beau m'arracher les yeux sur les étiquettes des bouteilles de sirop aujourd'hui, je ne vois pas du tout mention de ce fruit, éventuellement quelques colorants et un fond de purée de fraises. Voilà notre pauvre grenadine moderne. Mais vous pouvez, si vous avez des grenades dans votre jardin, faire beaucoup mieux que ça, avec un petit chaudron et un peu de sucre, et vous vous ferez une grenadine qui ravira bien évidemment tous les enfants. Et puis ben voilà, manger une grenade finalement c'est une vraie mission. C'est pas du tout comme une banane. Je veux dire, quand vous avez pelé votre banane, le fruit il est là entièrement, on peut l'avaler d'une traite. Manger une grenade c'est beaucoup plus technique. Hein. Il faut d'abord l'ouvrir sans perdre de pépins. À un moment, je voyageais dans le Maghreb et il y a vraiment cette tradition de la grenade, c'est un fruit précieux et alors il faut pas perdre un seul grain. Donc vraiment le jeu des enfants là-bas, c'est d'ouvrir la grenade avec beaucoup de délicatesse et d'éviter d'en faire tomber le moindre grain. Donc il faut aller picorer tous ces grains les uns après les autres, éviter qu'ils ne tombent par terre et puis éviter la petite peau blanche qui est au milieu de ces grains là et qui elle pour le coup est beaucoup plus amère et pas du tout agréable. Donc voilà, on peut pas croquer à pleines dents dans la grenade. Il faut forcément passer par cette petite entreprise vertueuse de manger la grenade grain à grain. Alors ça fait aussi toute une aventure, quoi, de manger la grenade. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien cet arbre. Et puis vraiment, il est très adapté. Un petit bémol quand même, si vous n'avez pas accès à l'eau, c'est un arbre qui va plutôt aimer d'avoir pas les pieds dans l'eau, mais d'avoir un accès quand même assez régulier à l'eau. C'est-à-dire si vous le gardez en terre sèche, il va un peu avoir du mal à fructifier les années sèches et il sera toujours heureux d'avoir un petit peu d'eau sur les racines. D'autant que comme il est reproduit par de la reproduction végétative, bouture ou marcotte, on est sur du racinaire de remplacement. Et du coup, voilà, si vous voulez des fruits sur le grenadier, à partir du moment où il est en fleur, n'hésitez pas à lui donner de l'eau une fois tous les 15 jours, 3 semaines, pendant la saison sèche, ça aidera les fruits à venir à maturité. Il y a beaucoup d'eau finalement dans la grenade et il faut l'aider un peu pour qu'il aille bien à fruits. Voilà, donc c'était mon invitation de ce mois à redécouvrir le grenadier. Et puis vous verrez aussi dans le parfum et la forme des fleurs est extraordinaire. Voilà, faites attention à ce petit arbrisseau très bien chez nous. Ça me fait une petite transition... Sur ce mois-ci au verger, je viens juste d'en parler pour la grenade, il faut commencer à préparer nos arbres pour la sécheresse qui pourrait venir. Donc deux choses, si vos arbres sont jeunes, surtout pensez bien à les pailler, hein. Même les graminées là, de première saison, les graminées de printemps qui pourraient pousser au pied de votre arbre, c'est une concurrence vraiment importante pour les jeunes arbres fraîchement plantés. Quand je dis fraîchement, c'est les 2-3 ans qui précèdent. Il faut vraiment maintenir le pied de vos arbres sans herbe. Et la meilleure façon d'y réussir, c'est de faire usage d'un paillage organique de toutes sortes. Ça peut être les coupes de vos gazons que vous pouvez entasser au pied de vos arbres. Déjà pendant l'hiver, hein, vous pouvez commencer à ramener toutes les herbes et pardon les feuilles qui tombent à l'automne. Tout ça, vous pouvez rassembler au pied des arbres de manière à ce qu'au printemps, la terre ne puisse pas faire lever les graminées. Ça, c'est vraiment important. Si vous n'avez pas du tout de matière, j'ai pas parlé du BRF aussi, enfin tout ce qui est broyat végétal, c'est formidable pour faire le paillage au pied de vos arbres. Faites attention au collet, hein, n'allez pas assembler trop de matière vraiment sur le collet, on évite le collet, mais par contre sur, on va dire un diamètre plutôt de 3 mètres, mettez bien du paillage au pied de votre arbre, ça va vraiment être le gage d'un arbre qui peut passer l'été sans trop de soucis de sécheresse. Bien évidemment, s'il pleut pas de 2 mois et que vos arbres sont jeunes, on va dire tous les mois un petit peu d'eau, enfin un petit peu, 40-50 litres d'eau par arbre, c'est pas tant que ça, vous garantira que votre arbre va passer l'été sans stress hydrique. Et puis voilà, travaillez avec des arbres fruitiers les plus résilients possibles. Ça, je vous le dis régulièrement, quand vous plantez des arbres, fournissez-vous auprès de bons pépiniéristes qui vont vous indiquer les meilleurs porte-greffes pour votre terrain. Voilà, soyez aux petits soins avec vos arbres comme vous l'êtes avec vos tomates et vous aurez des super résultats. Voilà, ça c'était ma petite chronique ce mois-ci au verger. J'enchaîne, je fais encore la cloche et je passe à la dernière petite séquence personnelle avant de vous présenter l'entretien exceptionnel que j'ai eu ce mois-ci avec Pierre Liotagui. J'y reviens dans 2 minutes après le dicton du mois. Un essaim du mois de mai vaut une vache du pays de Bray. Bon, il m'a fait rigoler ce dicton. Je situe pas bien le pays de Bray. Je pense que c'est en Normandie. Pays de vache, s'il en est. Oui, vous savez, toutes celles qui dessinent sur les plaquettes de beurre, là, les vaches dans les champs, c'est la Normandie, ça. Ou peut-être c'était la Normandie parce qu'ils ont tendance à les enfermer dans des hangars, on y voit plus beaucoup les prés, les vaches maintenant. Bon, mais je cesse de digresser, je reviens à mon essaim du mois de mai. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Bah parce que on en entend parler régulièrement en boucle, c'est le déclin des insectes, des oiseaux. Et puis, ben, c'est vrai que ça pose des questions sur la pollinisation et sur la pollinisation de nos arbres fruitiers. Et du coup, ben, préserver les abeilles, ça fait un peu partie de la mission de l'arboriculteur. Donc, j'aimais bien ce dicton qui parle un petit peu d'apiculture. Alors, ça veut dire quoi? Un essaim du mois de mai vaut une vache du pays de Bray. Voilà. Dans l'histoire de la ruche, régulièrement. La ruche essaime, c'est-à-dire qu'il y a une partie des abeilles et une reine qui quitte la ruche. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'il y a une nouvelle reine qui est fécondée et après cette fécondation, finalement, il se retrouve avec c'est la reine de l'année. Elle est saluée par tous les mâles. Elle retourne à la ruche et du coup la vieille reine, celle qui était avant avec la colonie d'abeilles, va quitter le nid avec ses plus fidèles ouvrières, et elle va partir pour de nouvelles aventures, bâtir une nouvelle colonie. Finalement, elle est poussée dehors par la jeunesse de la ruche. Et à ce moment-là, vous avez donc la reine, l'ancienne reine qui quitte la ruche et qui va venir s'installer dans un arbre pas très loin. Ça s'appelle un essaim. Et vous avez donc un nuage d'abeilles qui la suit. Et c'est assez vertigineux de croiser ça. Et alors, quand est-ce que ça arrive? Ça arrive la première fois, et ben, quand la ressource est là. Et pour une ruche, la ressource, elle est là, ben, à l'optimum de végétation qu'on vit en ce moment. Et voilà, les premières journées du mois de mai, vous avez vraiment l'impression que ça y est, on a touché à l'été. Ces journées où il n'y a pas du tout de vent, où il n'y a pas du tout de nuages, où le poids de la chaleur commence à se faire sentir très fort, et ben à l'heure zénitale, vers 14h du coup, parce qu'on est décalé de 2 heures par rapport à l'heure solaire, c'est toujours le moment que vont choisir les abeilles pour quitter la ruche. Et donc, ben voilà, cette première journée où il fait chaud, moi qui suis à mes heures perdues apiculteur, je suis toujours attentif à cette première journée parce que je sais que c'est la première journée où la ruche va essaimer. Et cet essaim qui sort en premier, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, on parle d'essaim secondaire et tertiaire dans l'année de la ruche, mais celui-là, il aura la force de se reconstituer entièrement avant l'hiver parce qu'il va avoir toute la saison devant lui. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut une vache. C'est parce que derrière, on a des promesses de miel importantes. Voilà, c'était mon petit mot. Et pour finir là-dessus, ben, si vous êtes témoin de cet événement, un essaim, alors quand on est témoin d'un essaim, même si on n'est pas préparé ou on ne sait pas à quoi ça ressemble, pendant, je ne sais pas, je dirais 10 minutes, un quart d'heure, on a vraiment un nuage d'abeilles, mais assez large, quoi. Ça prend 100, 150 mètres. C'est toutes les abeilles qui tournent autour de leur cœur, la reine qui est sortie. Et avant de refaire la grappe et de faire une boule qui est finalement assez discrète quand ils ont refait la boule, eh ben, ce nuage, on le vit, quoi. Et donc, si, voilà, quand on est témoin de la fabrication de l'essaim, on s'en souvient, c'est assez incroyable parce que c'est sur une petite zone, c'est noir d'abeilles. Alors vous inquiétez pas, hein, si vous êtes au cœur de ça, les abeilles qui créent l'essaim, elles ont quitté la ruche en se remplissant entièrement le jabot de miel. Et donc elles sont un peu lourdes et elles portent tout leur trésor de miel à l'intérieur de leur jabot, ce qui leur permettra de créer la nouvelle colonie. Et ce qui veut dire qu'elles sont absolument incapables de piquer à ce moment-là. Elles seront jamais du tout en mode attaque. Elles vont juste penser à faire corps autour de la reine, faire l'essaim. Et pendant 24-48 heures, comme ça, elles vont rester dans un arbre ou dans un buisson dans un premier temps. Et là, elles envoient des éclaireuses un peu partout sur le territoire et elles cherchent l'endroit idéal pour bâtir le nouveau monde, la nouvelle colonie avec l'ancienne reine. Et une fois que toutes les éclaireuses sont rentrées, qu'elles ont fait leur rapport, elles ont mesuré tous les trous, donc là, si elles ont la chance de trouver une ruche à ce moment-là, elles vont venir s'installer tout de suite chez vous. Donc il y a toujours une ruche vide pour accueillir les éventuels essaims qui pourraient se former. Ça, c'est la première chose si vous voulez vous lancer dans l'apiculture. Et puis soyez attentifs donc au mois de mai à ces essaims. Et puis vous pouvez contacter, il y a des apiculteurs amateurs qui se feront un plaisir, si vous les appelez, de venir récupérer un essaim qui se serait formé près de chez vous, dans un arbre ou dans un buisson. Voilà, c'est un vrai cadeau que vous faites à un apiculteur, surtout si nous sommes au mois de mai, donc les essaims primaires. N'hésitez pas. Alors pourquoi je vous dis ça? Ben parce que à Paysarbre, si vous nous contactez, je redonne les contacts à la fin de l'émission, on pourra vous mettre en lien avec des apiculteurs qui viendront récupérer cet essaim. Voilà, on en connaît plusieurs. Moi-même, ça peut m'intéresser, suivant où il est. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous tout de suite, envoyez-nous un petit mail ou même un coup de téléphone. Ça va assez vite, il faut agir vite pour récupérer les seins. Il suffit de venir avec une boîte à ce moment-là, hop, on a une ruche, quoi. C'est vraiment super, les seins du mois de mai. Donc, soyez attentifs à ces abeilles, protégez-les, évitez d'utiliser des insecticides dans vos champs, dans votre potager, tout ça, on le dit, on le redit. Mais vraiment, ça craint un peu quand même comme produit, vu que ça... Derrière, il y a aussi une chute de toute la chaîne alimentaire. Hein. Si on trouve qu'il y a moins d'oiseaux aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on utilise beaucoup d'insecticides. Donc faites attention. Il y a des solutions plus intéressantes. L'oiseau est un bon insecticide. Installez des oiseaux dans vos jardins. Tout ça, je le dis et je le redis. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je vais maintenant vous proposer une petite pause musicale avec une chanson de Jacques Higelin. Qui s'appelle Le Parc Montsouris. Voilà, j'aimais bien l'idée de rendre hommage à Jacques, qui fait partie des nombreux chanteurs que nous avons perdus cette année, après Johnny et France Gall. Voilà, Jacques Higelin, tu es parti. Repose en paix là où tu es. On se souviendra de toi à travers tes chansons. Ici, Le Parc Montsouris.
C'est le domaine où je promène mes anomalies, où je me décrase les antennes des mesquineries de la vie. Y a même un kiosque à musique où des militaires jouent à moitié faux. Je vis pas ma vie, je la rêve. Le soleil se lève et moi aussi. C'est comme une maladie que j'aurais chopée quand j'étais tout petit et qui va pas me lâcher avant j'en crève. Le facteur, le coursier, les balles de nuit, les éboueurs m'interpelle. Hey Jacques, qu'est-ce que tu fous encore debout à cette heure-ci? Je vis pas ma vie, je la rêve. C'est comme une maladie que j'aurais chopé tout petit. Quand le parc mon sourire amène sa fraise, les matins où le soleil vous mord la peau, le dos collé à la chaise, les pieds au bord de la pièce d'eau, ça me rappelle cette valse autrichienne que papa jouait en rentrant du boulot. Mon cœur est déchiré, séparé du tien. Je me sens comme un routier entre loup et chien. La vie, c'est ce qui vous tombe dessus. Ma coupe est pleine tabac, mon sourire. Les clodos me livrent la marchande de journaux, m'offre un pot, m'interpelle. Et Jacques, et tu viens de te lever là ou tu rentres te coucher? Je vis pas ma vie, je la rêve. Le soleil fait la grève et moi aussi, c'est comme une maladie que j'aurais chopé quand j'étais tout petit et qui va pas me lâcher avant qu'elle m'achève.
Et voilà, merci encore Jacques Higelin, ce joyeux baladin qui est parti. Merci à toi pour cette poésie et cet amour que tu as du vivant et que tu nous as transmis pendant son passage sur cette terre. J'enchaîne avec... Eh, vous avez vu, je me débrouille bien là, hein, je fais la cloche tout seul. J'enchaîne avec la chronique Chasseur de sons. Ce mois-ci, je suis allé dans les Alpes pour vous, et pour moi aussi, parce que ça m'a fait très plaisir de rencontrer un grand monsieur. C'est Pierre Liotagui qui m'a ouvert la porte de sa maison et qui a bien voulu répondre à certaines de mes questions. C'est un entretien un peu long, ça dure une vingtaine de minutes, mais vous allez voir, on perd pas son temps. Alors installez-vous et on passe ces 20 minutes en compagnie de Pierre. La première question que je lui ai posée, c'était de savoir un peu à quel moment... Enfin, j'essayais de c'était une question de psychanalyste un peu. Je lui ai dit, Pierre, c'est quoi ton premier souvenir avec le végétal, le plus ancien, quoi? Où est-ce qu'on est? Où est-ce que tu es quand tu rencontres la première fois de ta vie les plantes? C'est à toi.
Voilà une question compliquée. C'est d'abord plutôt vers ce qu'on appelle maintenant la nature, et que j'ai pas envie d'appeler nature. Je pense que ça m'a toujours été concerné par les choses de la chose du vivant, mais aussi à une époque par les roches, par la géologie, par la paléontologie. J'ai regardé les oiseaux avant de regarder les plantes, et il y a eu un accident de santé assez brutal dans ma vie, vers 20 ans, qui fait que je n'ai plus pu marcher pendant une époque. Et du coup, je supposais que je ne pouvais plus aller vers les oiseaux. Et comme les plantes elles-mêmes avaient suffisamment de patience pour attendre ma venue, eh bien, je me suis tourné vers les plantes. Mais c'est aussi que, lors de cette histoire, j'ai rencontré quelqu'un qui était botaniste et qui était un Anglais. Donc mes premiers noms de plantes, c'est des noms de plantes en anglais. Et qui m'a donné le goût de, on va dire, à l'époque, de nommer les plantes. C'est simplement une simple idée de nomination.
Tu as parlé de nature, et puis juste après, tu t'es repris et t'as dit « j'aime pas beaucoup ce mot ».
La nature, bon, elle a connu plusieurs significations, enfin le terme de nature, hein, depuis les Grecs. Maintenant, c'est surtout un fourre-tout. On va dire que la nature, c'est ce qui n'est pas le domaine urbanisé, c'est ni industrialisé, c'est ce qui est ailleurs. C'est un lieu d'investissement, de beaucoup d'espérance, pas toujours fondée. C'est le lieu vierge, c'est-à-dire c'est ce qui est contraire en fait aux formes que prend notre société. Je me reconnais pas dans cette perception-là, parce que pour ce qui me concerne, la nature, ça commence à ma porte. D'ailleurs, c'est aussi bien l'herbe de la rue que l'arbre de la forêt tropicale. La nature est, si elle n'est pas partout, elle n'est nulle part. Et quand elle est nommée quelque part, ça veut dire qu'ailleurs, on ne l'aperçoit pas. On ne perçoit pas ce qui pourrait tenir lieu de nature. Donc, il y a une totalité vivante et elle n'est pas sécable. C'est-à-dire, on n'en fait pas des morceaux. Et en ce sens, je refuse l'emploi de la du mot, concept, valise, tout ce qu'on veut, de nature, parce que c'est beaucoup trop vague. Et pour finir aussi, c'est un mot d'excuse.
Alors, pour revenir à ton parcours quand même, est-ce que tu peux me dire comment tu en viens vers ce qu'on appelle maintenant l'ethnobotanique, finalement, et qui est quand même une histoire de lien, non ?
Il me semble que je suis intéressé toujours à des questions de relations, c'est-à-dire pas seulement la plante pour elle-même, même si je me suis intéressé aussi aux plantes pour elles-mêmes, même d'une certaine façon jusqu'à la passion maniaque, parce que quand on se met à étudier par exemple les serpolets, les saules, les églantines, ça sort des ce que les botanistes appellent des groupes complexes. Donc on n'est plus dans une relation simple avec la flore, on est dans un questionnement à caractère savant. Mais j'ai aussi une enfance dans un pays de bocage. Avec des gens qui m'apprenaient des noms et des usages. Et je crois que ça a influencé ensuite l'attention que j'ai eue aux plantes. Mon premier livre qui parlait de plantes, c'était un petit bouquin qui était un petit recensement des champignons et des plantes qu'on pouvait manger. C'était une traduction d'un livre allemand des années 40, je crois. Je crois que ce livre m'a beaucoup marqué, parce que dans l'idée d'usage, il y avait bien entendu la question de la relation que je pouvais vivre un peu moi-même d'une façon extrêmement ponctuelle dans mon pays d'enfance.
Et la première plante qui te marque, la première rencontre où vraiment dont tu te souviens maintenant, de l'enfance.
Alors je crois qu'il y a une plante que les Bretons appellent cocolorique, qui est une ombellifère, qui est une noix de terre, une noisette de terre, qui pousse dans les talus, qui poussait dans les talus du bocage, parfois de façon très abondante, et qu'on apprenait à récolter. Alors c'est une plante qui a cette souche en forme de tubercule unique, et on suit la tige qui devient blanche, un peu comme les tiges des narcisses en disparaissant dans la terre, et on arrivait jusqu'à cette racine qu'on épluchait, qui avait la taille d'une noisette, et qui est une des rares racines européennes à être consommable telle qu'elle et sans risque. Donc ce mot de cocolorique, qui était le nom en breton, dont je ne connais pas la signification précise, parce que en breton, ce sont souvent des noms explicatifs, les noms d'oiseaux sont souvent des onomatopées. Voilà, il y a ce ton-là, c'est un de mes premiers noms de plantes.
C'est joli en tout cas. On ne la trouve pas en Méditerranée, cette plante ?
Si, on la trouve sur les sols acides, notamment dans les Cévennes, où elle est relativement fréquente par endroits. Je ne parle pas d'en avoir ramassé dans la région de La Salle, de Saint-Jean-du-Gard en particulier, où elle peut être très fréquente dans la châtaigneraie et même dans la chênaie verte sur le granit. J'imagine qu'elle peut se rencontrer aussi dans les Maures, dans les zones fraîches du massif des Maures. Donc ce n'est pas une plante strictement atlantique, mais elle était... Alors il existe en Europe moyenne une autre noix de terre qui est un bunium, qui au contraire est plutôt propre au calcaire et qu'on a beaucoup consommé en tant que disette dans les siècles passés.
C'est ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ton livre, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'anecdotes comme ça que tu as toi-même collectées. Donc tu as fait beaucoup de travail de terrain finalement auprès de personnes ressources, beaucoup de gens qui étaient plutôt dans une paysannerie traditionnelle et qui avaient des usages que tu es allé chercher. Est-ce que tu as fait un travail de terrain ou est-ce que c'est des choses que tu as toi-même appris par, je sais pas, le biais de livres ou le processus, si tu veux, qui t'a amené à la connaissance, c'est plutôt un processus de terrain ou c'est plutôt un processus de bibliothèque, en fait ? C'est ça ma question.
À la base, il y a beaucoup de bibliothèques. Beaucoup, parce que pendant des années, j'ai fréquenté les bibliothèques des muséums surnaturels, où j'ai passé de nombreux mois de mon existence à prendre des notes à l'époque où il n'y avait pas encore de photocopies. Et donc ça a duré peut-être pendant 10 ou 15 ans. Et il y a eu aussi pas mal de terrain, de manière peut-être parfois un peu fortuite, c'est-à-dire j'étais quelque part en France, surtout pour des raisons botaniques, et puis je parlais avec les gens de où ils me parlaient, de ce qu'ils pouvaient percevoir dans la flore, de ce qu'ils pouvaient utiliser de la flore. Et par la suite, dans les années 70-80, je me suis occupé d'enquêtes, surtout dans le sud de la France, où j'ai rencontré des gens qui étaient les témoins de l'ancienne société paysanne, c'est-à-dire des gens qui avaient encore la mémoire d'un usage, qui ne pratiquaient plus forcément, mais il y avait encore des pratiques. Alors que maintenant, on a, pour le mieux, le souvenir des pratiques. La connaissance des usages de la flore s'est déportée quasiment complètement dans la société urbaine. C'est-à-dire la culture urbaine relance des savoirs via les stages, des sorties, des livres, etc. Donc la connaissance des usages de la flore se perpétue sur un autre mode. Mais la transmission orale, qui était celle que je rencontrais dans les années 70-80, elle a quasiment disparu, en tout cas dans le domaine rural français.
Dans la flore méditerranéenne arbustive, est-ce que tu as un arbre aussi qui pourrait être totémique, que tu apprécies de trouver? Est-ce qu'il y en a un qui te fait plus de signes que les autres?
J'aime beaucoup l'arbousier. Peut-être parce que c'est un arbre hors saison. Donc j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir l'arbousier à la fois en fleurs et en fruits. C'est pour moi une grande émotion. Et puis j'aime aussi sa profusion, c'est-à-dire qu'il y ait sur les chemins du maquis quelquefois des véritables tapis d'arbouses un peu assombris par le fait d'être au sol, où elles se perpétuent quand même quelques jours, qu'on peut encore manger, même si l'arbouse n'est quand même pas le fruit le plus délicieux qui soit. Enfin, j'aime cet arbre. Après, c'est aussi un arbre plein de vaillance, parce qu'il fait partie de ceux qui repartent de souche facilement après l'incendie, donc... Les garrigues, arbousiers, les maquis. Bon, l'arbousier, on pense souvent que c'est un arbre de la silice, mais c'est un arbre qui existe aussi sur le calcaire. Hein, dans la garrigue et languedocienne est riche en arbousiers. Et donc, après les feux, il redémarre d'une manière assez improbable, très vert, très, très vigoureux. Il a une souche qui résiste aux flammes. Par ailleurs, c'est un arbre qui peut vivre très vieux. Et voilà, toutes ces caractéristiques. Mais d'abord, je pense que cette espèce d'exubérance à contre-saison me touche. Il y a aussi des plantes nettement plus rares, comme un arbrisseau qui n'existe en France que dans la vallée du Gapot, du côté de Hyères, dans le Var, à l'ouest du Var, qui s'appelle l'alibouffier. Et qui est un petit arbrisseau, pas du tout ostensible, qui ressemble un peu à un cognassier à feuilles minces, pas cotonneuses. Et en fleurs, il a une floraison comme celle de l'oranger, très, très parfumée, très jolie. Et après, des fruits un peu feutrés, des petits fruits d'un centimètre feutrés, qu'un noyau extrêmement dur et qui a été employé jadis à faire des chapelets. Et bon, les bouffiers, d'abord, c'était en botaniste que je l'ai rencontré, parce que c'était l'une des plantes ligneuses les plus rares de France. La localité la plus proche, c'est dans les collines du Latium, du côté de Rome, en Italie. Puis après, il y en a davantage dans l'Adriatique, et puis en Grèce et au Proche-Orient, où il donne une résine très célèbre, qu'on appelle le storax. Et donc, je l'ai d'abord cherché simplement du fait de sa rareté et des questions qui se posaient quant à sa présence dans le Var. D'où venait-il? Est-ce qu'il avait été introduit? Est-ce qu'il est d'origine sauvage ancienne? Ce qui n'est pas franchement résolu. Puis après, je me suis intéressé davantage d'abord à ses usages. Et puis après, c'était simplement l'étonnement de voir au mois d'avril cette espèce d'oranger... incongru dans les taillis de chêne vert, avec ce parfum léger, et donc une belle présence chez les ligneux. Voilà pour l'alibouffier.
Oui, je le connais pas, moi je l'ai découvert dans ton livre, parce que tu lui dédies un petit chapitre. Alors, d'entendre parler de résine et tout, alors je ne sais pas si je vais percer un secret ou quelque chose qu'il ne faudrait pas savoir. Tu me le diras après, mais tu habites Man. Est-ce que le nom de Man vient de la manne, la résine précieuse?
Pas du tout. C'est un toponyme dont je perds l'origine. Là, je suis incapable de la dire. C'est scandaleux, j'habite à Man et je suis incapable de donner l'étymologie. Mais la manne que donne, par exemple, le frêne à fleurs, en Sicile en particulier, et puis dans le sud-est méditerranéen, c'est une production, un peu comme la manne de Bélaise, c'est une production qui est induite par un parasitisme. Et alors il y a à Manne un restaurant qui s'appelle la Manne Céleste, mais Manne le village n'a qu'un nain et la Manne en a deux. Alors la Manne des Hébreux, la Manne qu'ils mangent, qui par miracle apparaît sur des buissons dans le désert du Sinaï qui traverse en fuyant l'Égypte, c'est la Manne à Tamaris, qui a été appelée d'ailleurs par la suite Tamaris Manifera et Tamarix Manifera, et qui produit lui aussi une exudation sucrée, un peu analogue à celle du frêne à fleurs. Mais ici, non, il n'y a rien d'analogue. Par contre, sur le Mélèze, il y a aussi une manne qu'on appelait la manne de Briançon et que les enfants mangeaient volontiers autrefois.
Il y a plein de paniers chez toi. On touchait quand même à un moment, j'ai l'impression que l'humanité a touché à une forme d'harmonie ou d'une vie paysanne. Alors je sais bien, je ne veux pas du tout faire de donner une idée de comme s'il y avait un nirvana perdu ou une unité qu'on a perdu, mais quand même, moi, ces paniers, ils m'évoquent ça, quoi, ce moment où on avait une culture paysanne qui permettait de sortir à peu près tout ce dont on avait besoin, et puis ça retournait finalement dans le cycle assez facilement, quoi. Ces paniers, ce sont jamais que des petites branches qui retourneraient à leur état de sol et d'humus assez vite si on les remettait dans la forêt.
Pour ma part, je n'ai aucune nostalgie à l'égard des sociétés anciennes, ni des sociétés dites vernaculaires, des régions tropicales par exemple. Bon, elles sont souvent dans des déterminismes terribles, avec des violences terribles. Donc, je pense pas qu'il faille comparer ce qui est juste, c'est que les sociétés vivant proches des ressources qu'on dit naturelles ne font pas de déchets, puisque les restes, que ce soit des restes de tables ou les restes des industries, quand on fait une maison en bois, la maison en bois finira de toute façon par pourrir. Donc il n'y a pas de traces, et ça désespère d'ailleurs parfois les archéologues, puisqu'on ne trouve pas vraiment de signes c'est pas facile de trouver des signes des matières organiques. Alors la vannerie, j'aime beaucoup la vannerie, parce que qui n'intéresse pas que les saules, hein, là, je crois qu'il y a quelque part un panier en viorne lantane, hein, qui servait à faire des paniers grossiers. On fait des paniers en noisetier, en châtaignier, etc. Mais bon, j'aime beaucoup les saules, donc j'aime aussi beaucoup la vannerie. Puis la vannerie, c'est une pratique parmi les plus anciennes. Il est évident qu'elle est antérieure au néolithique. On a des traces néolithiques de vannerie parce qu'il y a des conditions de fossilisation dans des lacs, dans des sédiments acides, où on trouve des fragments de vannerie conservés. Bon, on connaît l'extraordinaire dextérité des vanniers qui travaillent le rotin, par exemple, les palmes. Il y a même eu des hypothèses qui prétendaient que ces systèmes rythmiques de construction d'objets avaient induit des pensées à validité mathématique. Puisque les dessins qui s'observent dans les vanneries sur une face correspondent à d'autres types de dessins sur l'autre face, donc avec des rapports qui ont peut-être été perçus. Bon, ça, c'est tout à fait dans l'ordre des spéculations. Mais ce sont des techniques anciennes qui ont été poussées très loin dans la précision, dans la maîtrise technique. C'est peut-être l'occasion de dire que les sociétés traditionnelles, qu'on a souvent considérées comme très frustes, elles ont poussé certaines techniques très loin et très anciennement. Par exemple, parmi plein d'autres exemples, on a trouvé des velours néolithiques au début de l'âge des métaux de moins 3000 dans des lacs en Suisse. Donc faire des velours à l'époque pour couper les fils et en faire quelque chose de lisse, enfin du moins de doux et de en surface d'un tissu, quand on n'a que des pierres tranchantes pour le faire, c'est quand même une prouesse. Donc les techniques sont extrêmement anciennes, les savoirs relatifs aux plantes sont bien antérieurs aux savoirs agricoles. Les premières meules qu'on ait trouvées jusqu'à présent, c'est des meules qui datent de moins 25 000 en Australie. Donc on a fait de la farine bien avant de cultiver les grains, et même dans des sociétés où on n'a jamais cultivé. Voilà, donc la présence du végétal induit d'une part des techniques, d'autre part via les signes qui sont les produits par la plante dans tous ses états floraux, fructifères, etc., sont des constructeurs de raison, des constructeurs de conscience. Donc la présence du le végétal est d'une certaine façon notre frère silencieux qui est en même temps notre précepteur tout au long des millénaires.
Ok, merci beaucoup Pierre pour m'avoir accordé cet entretien. Juste pour finir et toujours pour être dans l'idée que le végétal a des choses à nous dire ou à nous apprendre, comment tu vois justement l'espoir que tu pourrais porter sur la continuité finalement du rapport et du lien qu'on entretient avec tous ces êtres vivants non humains que sont les végétaux? Est-ce que tu aurais un vœu comme une projection?
C'est difficile de faire des pronostics dans l'état d'incertitude où nous sommes. C'est extrêmement périlleux. Ce qui me paraît la pollution majeure de nos jours, celle qui met la Terre en péril, c'est le mensonge. Puisque le mensonge volontaire, ou on va dire par omission, les responsables des ceux qui sont censés être à la barre du monde sont les mieux informés qu'ils considèrent que les questions que pose le devenir du monde sont d'une certaine façon secondaires, parce que on est dans tout un tas de pratiques de diversion. La façon par exemple dont on recycle nos déchets en fait partie. On règle une partie infime de la question, et ça excuse tout ce qui n'est pas pris en compte. Mon souhait, c'est que plus qu'imaginer de définir des hotspots ou de dresser des listes rouges d'espèces menacées qu'il convient à tout prix de protéger, c'est d'abord de travailler à faire à réduire le taux de mensonge dans les discours des sociétés de la Terre.
Merci beaucoup, Pierre Liotagui.
Voilà, beaucoup d'émotions, hein, vous avez entendu dans ce son. En tout cas, moi, j'étais très émotionné. Je suis très heureux de partager ça avec vous aujourd'hui. On va bientôt se quitter, c'est la fin de notre émission. Je finis juste rapidement par l'agenda. Je voulais faire un petit retour sur l'ODEV printemps et les fêtes de la Saint-Fulcran auxquelles nous avons participé avec Paysarmes et les autres associations environnementales du territoire. Vous étiez très nombreux à venir vous promener le jour du marché aux fleurs, alors que le temps n'était pas forcément avec nous. Il y avait beaucoup de vent, les arbres et les cyprès voisins étaient assez blagueurs, ils répandaient dans l'atmosphère l'ensemble de leur pollen. On était beaucoup à se moucher et à éternuer. Et malgré ça, finalement, l'esplanade a été pleine de monde du matin jusqu'au soir. Merci de vous engager pour les plantes, merci de les aimer, merci de partager ces moments qui sont importants. Voilà, le jardin, c'est vraiment le lieu du collectif, c'est le lieu du nous, hein, même si on parle de quelque chose qui est personnel. Quand on cultive un jardin, finalement, on cultive une communauté, hein, on cultive un écosystème. Et tout ça, c'est chouette, ça fait du bien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Juste pour finir le petit agenda, oui, vous dire que le 10 juin prochain, on fait notre assemblée générale annuelle. C'est ouvert à tout le monde. Vous recevrez, si vous êtes en lien avec l'association, les infos. Et ça sera au village de Selles toute la journée. Le matin, on a prévu une visite de notre verger conservatoire de Poirier. On mange ensemble. Il y aura sûrement un traiteur qui nous fera un peu à manger. On mange au bord du lac. ça risque d'être plutôt sympathique. L'après-midi de 14 à 16, on fera notre AG. Et derrière ça, on fait un petit moment sur la parcelle qu'on entretient là-bas, où on examinera les techniques pour greffer le rosier. Voilà, au mois de juin, c'est une bonne fenêtre pour la greffe des rosiers. Vous apprendrez tout là-dessus si vous venez avec nous partager cette belle journée festive. Voilà, c'était notre info planning pour le mois à venir. Ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute attentive et bienveillante, de vous dire au mois prochain pour le dernier bruit dans les feuilles de cette deuxième saison. Ça va vite, ça avance. Je vous laisse en compagnie d'Anne Sylvestre et ses arbres verts, et je vous dis au mois prochain.
Comme un accès de malaria, comme un vent de sable, ça se réveille quelquefois, c'est inguérissable. C'est une image qui surgit, c'est un mot qui claque. Le cœur qu'on croyait assagi, soudain cogne et craque. Puis un souvenir me traverse, lorsque j'ai connu le désert, il venait d'y pleuvoir à verse, on y voyait des arbres verts. Des arbres verts. Comme une danse de Saint-Guy, une fièvre carte. Quand la mémoire s'alanguit, les douleurs repartent. C'est un parfum inattendu qui vient me poursuivre. Vestige d'un amour perdu qui s'obstine à vivre. Alors je dépose les armes et je repense à ce désert. Si je l'arrosais de mes larmes, y viendrait-il des arbres verts, des arbres verts. Comme un vertige familier, comme une rechute, sur des paroles oubliées sans arrêt je bute. Mais on ne retient pas le vent, je le laisse faire. Qu'il ne souffle pas trop souvent, c'est ce que j'espère. À force de mélancolie, on peut apprendre le désert, ne pas regretter ses folies et cultiver ses arbres verts, ses arbres verts. Ne pas regretter ses folies et cultiver ses arbres verts, ses arbres verts.